Marc Guérin, je suis directeur d'hôpital et je voudrais faire une observation et poser une question. En tant que directeur d'hôpital, je produis 1 million de repas par an pour un prix de revient de l'ordre de 3,50 €, donc 2 € de matière première par repas. Et je suis directeur d'hôpital à Rennes, et même si j'ai des pressions amicales et politiques pour me dire acheter breton, si le prix de la viande de bœuf est 50% quand elle est produite en Bretagne par rapport à ce qu'elle est en Argentine, de toute manière, j'achèterai argentin. Je pense que la question du prix est fondamentale dans le choix de la restauration en domicile. Ça, c'est une observation pour alimenter le débat, si j'ose dire. Une question, je pense que nous avons été assez frustrés de l'intervention de la fin de la journée d'hier, et que moi, je n'ai pas compris ce que c'était que le pilier 2 de la PAC. Alors je vais vous dire, et je voudrais que vous nous donniez quelques chiffres très précis sur les différents types d'aides. Alors j'ai noté aide à l'installation des jeunes agriculteurs, conversion à l'agriculture biologique, indemnité compensatrice des handicaps, montagne. J'aimerais que vous donniez quelques données très précises parce que j'ai rien compris de l'exposé d'hier soir. Merci.
Il y a eu un petit bug hier soir. C'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu, mais voilà. Donc mais Aurélie va réparer tout ça. Autre question ? Oui, allez-y.
Frédéric Moulin, Artegas, moi j'avais aussi une question de compréhension. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment fonctionnent ou comment sont montés les GI2E ? Merci.
Oui.
Très rapidement, je voudrais avoir des informations, si c'est possible, sur le débat concernant la transparence des montants d'aide et au-delà des montants attribués par catégorie d'exploitation des personnes qui reçoivent ces aides.
Un point complémentaire sur les GI2E, pourquoi en France le dispositif des organisations de producteurs prévu dans la PAC marche aussi mal? Aurélie, le deuxième pilier. Oui, enfin, comme tu veux.
Il y avait une autre question.
Ah, une autre question, pardon, oui.
J'avais une question complémentaire, juste pour faire le lien entre les deux interventions. Par rapport aux défis que vous avez évoqués tout à l'heure, qui sont devant le milieu agricole, pour pouvoir être toujours, pouvoir être performant demain, on a une politique agricole commune, mais est-ce qu'on pourrait avoir un marketing agricole commun ?
Bon.
Sur le deuxième pilier de la PAC, c'est 25% aujourd'hui du budget de la PAC au niveau européen. Un peu moins en France, parce qu'on est historiquement un moins fort utilisateur du second pilier. C'est quand même 25% aujourd'hui, sans compter les cofinancements, puisque c'est contrairement au premier pilier, c'est cofinancé. Qu'est-ce que fait le deuxième pilier de la PAC ? Comment on le met en œuvre ? Chaque État, et en France maintenant chaque région, décide d'un programme sur 7 ans. Il a une enveloppe qui lui est allouée, et cette enveloppe, il la ventile entre quelques dizaines de mesures européennes possibles. Alors nous, qu'est-ce qu'on adore en France comme mesure ? Nous, d'abord, c'est ce qu'on appelle l'ICHN, l'aide aux hommes défavorisés. Historiquement, en France, c'est très fort. Ça permet de gagner entre 200 et 400 euros par hectare, enfin 50 hors montagne. Donc c'est, grosso modo, je crois que c'est la moitié du territoire français, et c'est 25% des exploitations quand même, qui sont aidées par ce dispositif-là qui est très important. En gros, si vous êtes dans telle zone, vous pouvez toucher par hectare un certain montant d'aide. D'accord ? Et ça, c'est justifié aujourd'hui par les handicaps naturels. Et là, d'ailleurs, la commission, qui veut faire rentrer ça dans la boîte verte, n'accepte plus qu'il y ait des aides dans les zones qu'on appelle zones défavorisées simples, qui sont des aides hors handicap naturel, mais avec handicap socio-économique. Pour vous dire aussi, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que la prime à l'herbe, qui était une prime, alors ça c'est la deuxième mesure historique de la France dans le deuxième pilier, c'est versé par hectare d'herbe pour ceux qui ont une grande partie d'herbe dans leur surface agricole, aider directement à l'hectare d'herbe les producteurs. Ça aussi, ça a été très récemment supprimé, pour revaloriser par contre l'aide aux zones défavorisées. L'aide aux zones défavorisées, elle est encore gérée au niveau national, parce qu'on considère que c'est une mesure qui, pour laquelle il faut les mêmes conditions au niveau national. Pour le reste, c'est en partie ou totalement régionalisé, c'est-à-dire que maintenant les régions ont leur propre programme régional. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils font des mesures agro-environnementales. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle les mesures système, c'est la baisse des phytosanitaires, la rotation de cultures en céréales, etc. C'est les aides aux investissements. Ça, c'est très important. Aider à investir dans un bâtiment d'élevage, y compris, ça peut être le retraite, hein, donc c'est pas forcément l'environnement proprement dit, hein, par ailleurs. Voilà. Et puis, les aides à l'installation. Donc vous avez une dotation aux jeunes agriculteurs, et c'est qu'une partie des installés, hein, une dotation pour s'installer. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai été claire sur le second pilier. Et donc les régions vont de plus en plus gérer ce second pilier, qui constitue à peu près 20-25% des aides directes agricoles françaises aujourd'hui. Hein. Donc c'est non négligeable. Hein. Mais ça cible qu'une partie des exploitants. Je crois que c'est... ah oui, alors là, je ne pourrais pas vous montrer combien des exploitants... Ça va être un tiers des exploitants qui touchent du second pilier. Hein ?
C'est beaucoup les exploitations d'élevage qui touchent les aides du deuxième pilier. Donc, il y a des documents très précis, parce qu'évidemment, moi, je comprends que c'est complexe, hein, il y a beaucoup de choses. Tous les ans, deux fois par an en France, il y a la commission des comptes de l'agriculture de la nation. Et il y a des documents qui sont publiés sur les concours publics à l'agriculture. Et c'est des documents de synthèse qui font une dizaine de pages, qui sont très bien faits et qui répondent de manière extrêmement structurée à la question que vous avez posée. Et en fait, qui disent comment ont évolué, en général, sur les 10 dernières années, les différentes lignes, affreuses puisqu'il y en a beaucoup, les différentes lignes qui contribuent à la somme des dépenses budgétaires pour notre agriculture. En France, on dépense annuellement 12 milliards d'euros. Pour l'agriculture française. 12 milliards d'euros. En Europe, c'est 50 milliards, dont 10 milliards pour la France. Donc on a 20% des aides de la PAC. Et sur ces 10 milliards, on rajoute 2 milliards au titre de ce qu'évoquait Aurélie sur, le cofinancement qui ne s'applique qu'aux aides du deuxième pilier. Les aides du deuxième pilier, sur les 30 000 euros d'aide que j'évoquais tout à l'heure, on peut dire que c'est à peu près entre 5 et 7 000 en moyenne nationale. Mais c'est très variable, c'est-à-dire qu'en fait, les exploitations d'élevage des zones de montagne, c'est pas 5 000, ça peut être 20 000 ou 25 000, et par rapport à des revenus qui sont à 20 000 euros, du coup, ça devient totalement déterminant. Par contre, vous êtes céréalier dans la Beauce, les aides du deuxième pilier, c'est 0%. Vous êtes producteur de lait, producteur de porc en Ille-et-Vilaine, les aides du deuxième pilier, c'est zéro. Donc c'est en fait le ciblage qui fait la difficulté des choses. Ce que je veux dire, c'est que c'est très suivi en France. Hein. Il y a un bureau au ministère de l'Agriculture, depuis 20 ans, qui fait ça tous les ans, qui s'appelle le bureau des concours publics à l'agriculture. Et donc on a une normalisation de cette question qui est très bien. Heureusement.
D'ailleurs, alors là, je vous ai mis les montants prévus 2014-2020 sur la PAC premier, deuxième pilier, plus les cofinancements nationaux. Et alors justement, ça m'amène à la transparence du montant des aides. Aujourd'hui, si vous allez sur ce qui s'appelle Télépac, vous mettez le nom d'une commune, vous avez tous les bénéficiaires avec les montants exacts. Hein. Donc c'est quand même, y a quand même une forte transparence, encore que... Alors moi j'arrive quand même à un point, mais je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté. Il y a une base de données d'aide premier pilier, auquel on n'a pas accès, qui est en gros, voilà, en tant que chercheur, même en tant que chercheur. Hein. Donc cette transparence, il faut la nuancer. L'administration y a accès, nous on n'y a pas accès, ce qui nous empêche d'ailleurs de faire, de mon point de vue, certains calculs. Hein, mais voilà. C'était pour nuancer quand même un tout petit peu cette transparence des montants d'aide. Moi j'aimerais bien accéder à cette base de données de manière automatique. Voilà. Sur les camps.
Vous auriez accès aux aides du deuxième pilier.
Alors les aides du deuxième pilier, on y accède totalement. C'est totalement transparent. Et par ailleurs, le deuxième. Moi, je sais pas ce que vous, le deuxième pilier. Il est négocié, il est évalué de façon obligatoire en France parce que c'est une mesure cofinancée avec l'Union européenne. Et donc on l'évalue, y compris tous les ans, et ex post, ex ante, enfin il y a un comité de suivi, voilà. Vous avez accès publiquement aux évaluations. Le premier pilier, il est évalué au niveau européen. Au niveau français, il n'y a pas d'instance réelle d'évaluation. Et moi, je trouve que c'est un problème parce que c'est quand même près de 80% des aides directes. Et par exemple, on a pu le faire quand même avec la DRAF, avec la direction de l'Occitanie. Je ne sais pas si tu l'as un travail qu'on a fait avec un étudiant IPEF, on l'a fait sur l'Écosse et Cévennes. Je ne vois pas que personne qui a en zère. On l'a fait sur l'Écosse et Cévennes. On a eu accès à la base de données premier pilier. Et bien, par exemple, un des résultats qu'on a trouvé du fait des effets induits non attendus, je ne rentre pas dans le détail, c'est que normalement, la nouvelle PAC en France devait avantager les exploitations de moins de 50 hectares, qui est la moyenne de la taille d'exploitation. Et on a trouvé qu'en moyenne, sur l'Écosse et Cévennes, en dessous de 50 hectares, vous y perdiez à la nouvelle réforme, au-dessus de 50 hectares, vous y gagnez. Donc il y a des effets induits non attendus, et je pense qu'on a intérêt justement à poursuivre ce type d'évaluation à une échelle territoriale. Parce que comme c'est un dispositif très compliqué avec tout un tas de dispositifs qui peuvent s'entremêler, ben, il faut absolument qu'on ait... de mon point de vue, le premier pilier devrait être évalué de la même façon que le second pilier de la PAC. Quoi. Sur les cantines, tout à fait d'accord avec vous, le problème... moi, je pense que... alors, l'actuel gouvernement, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, mais sur le précédent gouvernement... Il faut reconnaître quand même quelque chose à Stéphane Le Foll, c'est de l'avoir mis sur la table, d'avoir beaucoup communiqué dessus. Il a fait un guide des circuits courts je ne sais pas si ça y est encore, sur le site du ministère de l'Agriculture. Voilà. Par contre, il manquait des aides à côté, quoi. C'est-à-dire il manquait des aides incitatives à la territorialisation. Alors ça peut poser problème si vous avez du droit de la concurrence, tout ce que vous voulez, mais il manquait des aides avec. Et le problème, c'est que vous avez des collectivités locales. Moi, j'habite à Montreuil et... Bah, évidemment, Montreuil ou à Vincennes, pour prendre une autre commune limitrophe, vous n'avez pas tout à fait les mêmes moyens pour mettre en œuvre des circuits bio, machin, tout ça, dans les cantines. Hein. Ça, c'est sûr. Encore que, alors, le problème des hôpitaux, la question des hôpitaux, je le connais moins, mais pour les cantines scolaires, il faut aussi peut-être mieux diffuser les bonnes pratiques. Là, je viens de faire un stage IPEF sur la mairie du 5e arrondissement, qui arrive à avoir le coût de revient le moins important de tout Paris, et qui est en 80% bio, entièrement en circuit, quasiment en circuit direct, avec un seul intermédiaire entre les producteurs et la cantine pour la majorité des produits. Tout simplement, et avec cuisine traditionnelle, etc. Donc il y a aussi des idées fausses, hein, et là il faut peut-être mieux diffuser les bonnes pratiques, parce qu'il peut y avoir aussi des économies, tout simplement, sur les marges que fait la Sodexo et la Sogires, etc., quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc, il y a des marges quand même importantes prises par tous ces organismes-là. Alors évidemment, ça demande une gestion, une régie publique, hein, mais voilà, il y a cette question-là qui... et de mon point de vue, alors je pense que c'est une mesure en plus sociale. C'est-à-dire que de mon point de vue, ça pourrait être porté sur, vis-à-vis d'une question. Alors je sais que toi, tu as été aussi très. Tu as beaucoup parlé de ça. C'est que permettre à chaque enfant, et pas seulement les enfants des couches favorisées, d'accéder au bio au moins une fois dans leur journée, dans leur repas, d'accéder à des produits de qualité, qui ne soient pas des tomates congelées de je ne sais pas où, qui n'ont plus aucun goût. Et faire derrière, c'est ce que fait la mairie du 5e, hein, faire derrière, et ce n'est pas une mairie gauche, écolo et tout ça, hein, donc ça n'a rien à voir par ailleurs, ça n'a pas forcément à voir avec la couleur politique. Faire derrière toute une éducation, une formation, tu parlais d'éducation et de formation hein, dès le plus jeune âge, je pense que c'est un vecteur vraiment, vraiment important. Pour finir sur les organisations plus tard, mais je pense que tu vas compléter.
Sur le, alors, les GI2E.
Ah oui, les GI2E, alors comment ça se passe en grosso modo?
C'est vous. Création de la loi.
Voilà. 2014, voilà. Loi sur le, loi d'avenir agricole 2014. Donc très bonne idée, qui est en gros, il y a des propositions de projets qui sont faites, de structuration de filières. Légitimé sur plan socio-économique et environnemental, sur l'économie et l'autonomie des filières, etc. Donc vous présentez un projet avec besoin de modifier, de changements à la fois en amont, par exemple ça peut être verser des aides à la chambre d'agriculture pour qu'elle fasse plus d'accompagnement pour la rotation de culture, aux producteurs qui s'engagent dans la rotation de culture, et puis en aval pour que la coopérative elle ait un silo pour telle nouvelle production. Vous voyez, donc tout un tas d'aides ciblées pour des changements et des structurations de filières à l'échelle territoriale. Très bonne idée, mais de mon point de vue, qui n'a absolument pas été soutenue et puis voilà, qui a du mal aujourd'hui à être suivie. Voilà.
Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de budget. Il y avait une idée et il n'y avait pas un budget public autour de ça. L'idée, elle a été un tout petit peu abordée par Stéphane Le Folli hier. C'était que on comprend que pour faire bouger les itinéraires de production, les pratiques, etc., il faut passer à une échelle micro-collective de voisinage sur les assolements, sur les organisations, comme je viens d'indiquer, etc. Donc l'idée, c'était de donner un nom et une structure à ces formes de regroupement volontaire d'agriculteurs. D'ailleurs, la loi est très simple, hein, elle dit que le GI2E, c'est un regroupement volontaire d'exploitants agricoles qui partagent un projet de changement d'itinéraire et de pratique. Enfin, l'idée, elle est simple. Elle s'inspirait d'un antécédent ancien qui était celui d'une loi de 98 sur les contrats territoriaux d'exploitation. Le problème, c'est qu'en 98, il y avait une enveloppe qui avait été consentie par Bercy pour accompagner ces contrats et que dans la loi, il n'y a pas eu d'enveloppe. Et donc, on est sur un volontariat. Alors après, on a ciblé, on a orienté des aides existantes, mais tout ça était quand même très ténu.
Voilà. Dans la continuité de ce que vous dites, pourquoi les régions ne sont pas emparées de ce type de dossier? Parce que le vice-président qui s'est exprimé hier s'est mis complètement à côté de ce genre de sujets territoriaux.
L'idée, oui, c'est une très bonne question. En fait, dans le débat parlementaire autour des GI2E, il y avait l'idée que précisément on s'appuierait sur le deuxième pilier, qu'il y aurait une coordination d'ailleurs avec la programmation du deuxième pilier et les régions. Et la convergence politique s'est pas faite. Ça n'a pas été porté, ça n'a pas été relayé par les organisations professionnelles qui en fait n'en avaient pas vraiment envie. Et donc, il y a des expériences pionnières qui sont extrêmement intéressantes, mais qui restent pionnières, qui n'ont pas connu le. Pourtant, on aurait pu l'espérer parce que, en plus, Stéphane Le Foll avait obtenu à Bruxelles. C'est là encore un autre débat très technique, la transparence des GAEC. C'est-à-dire que les GAEC sont les groupements agricoles d'exploitation en commun, donc plusieurs exploitations familiales se mettent ensemble pour s'organiser, produire, etc. Et alors il y avait une difficulté, c'est que le GAEC était reconnu à Bruxelles, puisque c'est une invention très française, comme une seule exploitation. Et donc le combat de Le Foll pour aider justement à favoriser ces regroupements d'exploitation en commun, c'est de dire un GAEC c'est plusieurs chefs d'exploitation, donc il faut reconnaître chaque chef d'exploitation comme ayant droit à supplémentaire sur les 50 premiers hectares, etc. Enfin, encore un autre débat très technique. Et bref, tout ça pouvait... Il y avait une cohérence entre tout ça. Et c'est très long à se mettre en route. Il faut arriver à aligner les astres des différentes réglementations. Et honnêtement, on n'y est pas parvenu. Je peux dire les choses comme ça pour faire très vite.
Bonjour. Juste une remarque. C'est sur la restauration collective. Vous dire que le choix qui a été fait par le précédent gouvernement, parce que j'ai un peu bossé dessus, ça a été de relever le seuil des marchés publics de 15 à 25 000 euros. Et ils ne pouvaient pas faire d'aide, ils auraient été cassés.
Oui, c'est ça.
Ils auraient fait la même chose qu'on a sur la taxe sur les dividendes, donc ils n'ont pas voulu faire ça. Et ils ont relevé le seuil de 15 à 25 000 euros. Et moi, par exemple, je suis très impliquée au niveau des écoles, dans mon arrondissement. Et je sais que la caisse des écoles, que bien sûr personne n'avait informé, donc c'est moi qui les ai informés, s'en est servi pour, du coup, les achats de pommes, des choses comme ça. Mais c'était trop coincé.
D'accord. Je savais pas la raison pour laquelle il n'y avait pas eu de financement derrière conséquent au niveau ministériel. Sur les organisations de producteurs rapidement, alors sur les OP, Vincent, tu connais aussi très bien. J'étais particulièrement impliquée sur l'étude, j'en ai fait une étude pour le ministère de l'Agriculture là-dessus, sur contractualisation et OPL notamment. Donc, la structuration des organisations de producteurs. D'abord, je ne vous ai pas montré ça, mais pour moi, ça interroge quand même fortement. C'est la transmission des prix, enfin de la baisse des prix à la production sur la baisse des prix des produits agroalimentaires. Ce que vous voyez quand même, alors je sais, après, on va discuter largement du pourquoi et du comment. Enfin, vous voyez quand même un fort décrochage entre les prix des produits agricoles à la production et les prix des produits agroalimentaires à la consommation. Alors, on peut se dire oui, mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de packaging, de transformation, etc. Mais vous prenez le secteur, et c'est là que d'ailleurs interviennent les débats des états généraux de l'alimentation. Prenez le lait, ça c'est les chiffres de l'Observatoire des marges au niveau national. Donc en bleu, c'est le prix à la production. Donc vous prenez le lait UHT qui n'a quand même pas eu un saut. On ne peut pas expliquer ce qui se passe là parce qu'il y aurait plus de transformation dans le secteur laitier ou de packaging ou j'en sais rien. Donc là, vous voyez quand même que, vous voyez en bleu, jusqu'en 2007, on est dans une belle stabilité pour les producteurs grâce à la PAC. Puis après commence toute la période d'instabilité. Alors ici, c'est la saison, hein, d'accord ? C'est le cycle saisonnier. Donc ici, après, vous avez une forte instabilité, tout de même, hein, pour les prix à la production, encore qu'en France, ils sont beaucoup plus lissés qu'en Allemagne, par exemple. Et puis, surtout, regardez, alors, en fait, on remarque que les distributeurs et les producteurs, notamment les producteurs, dans une moindre mesure, les transformateurs se prennent plein face la volatilité des marchés. Par contre, les distributeurs, quand même, en fait, eux, s'en sortent quand même plutôt bien et augmentent leur prix... tranquillement, alors il faudrait mettre l'inflation, mais quand même augmente leur prix tranquillement, sans répercuter par exemple par contre les marchés internationaux, la volatilité des marchés internationaux. Par ailleurs, ils ont fait quand même sur le lait, par exemple, regardez sur le beurre, ils ont réussi à faire une augmentation de marge quand même très conséquente. Les transformateurs dans une moindre mesure hein, depuis 2000 et les producteurs absolument pas. Donc il y a quand même un problème aujourd'hui de partage de la valeur ajoutée au sein de la filière, dans un monde quand même de plus en plus, dans un monde très, avec des rapports de force quand même très forts, hein, entre des producteurs mal organisés, ça c'est des pures bases d'économie, et des transformateurs et distributeurs très concentrés, notamment les distributeurs qui sont en fin de parcours. Donc se posent des questions de rapports de force, et du coup, il y a deux solutions. Soit on régule fortement les marges économiques. Alors, je vais vous dire, c'est pas... Les États-Unis font ça aujourd'hui. Ils ont ce qu'on appelle les milk marketing boards. Et ils régulent très fortement les marges au sein de la filière, d'un échelon à un autre. C'est pour vous dire qu'en Europe, on est allé très loin dans la dérégulation, mais que nos voisins, il y en a tout un tas qui continuent à réguler fortement leur marché d'une manière ou d'une autre. Hein. Aux États-Unis, c'est très régulé, sans parler du Canada, qui est encore un extrême. Et même en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a quand même un monopole coopératif qui joue certaines formes de régulation privée très forte. En France, on se retrouve, les industriels privés, la plupart, c'est quand même de la collecte par des industriels privés, et les producteurs, ce qui s'est passé, c'est que, d'abord, on a fait la contractualisation avant la constitution des OP, et ces fameuses organisations de producteurs,
elles sont restées d'abord avec de faibles moyens et avec une faible taille. Donc elles sont, et elles ne peuvent pas mettre en concurrence les transformateurs. Surtout que maintenant, on a une OP Lactalis, une OP Saventia, je ne suis pas Danone, mais en gros, on a fait des OP par entreprise. Alors pour mettre en concurrence vos clients quand vous avez fait des OP Lactalis, etc., ce qu'il faudrait, c'est des OP par bassin. Toute la profession agricole, des producteurs agricoles est d'accord. Pourquoi ça ne se fait pas? Ça, c'est la grande question. De mon point de vue, il manque une incitation publique et un accompagnement par l'acteur public pour vraiment faire ça. Il y a peut-être aussi des craintes vis-à-vis du droit de la concurrence. Oui. Mais en tout cas, c'est quand même...
Il y a juste un tout petit sujet qui est sur le droit de la concurrence.
Non, on a droit à un tiers de la collecte par OP.
Madame.
Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots la teneur des discussions sur le préalable à la PAC de 2020? Parce que je pense que la discussion elle commence. Donc, et en termes de montant budgétaire, et en termes d'équilibre entre les deux piliers, où en sont les discussions sur l'évolution à venir? C'est quand même bientôt.
Tu veux demander?
Quand vous dites c'est bientôt, c'est vous qui vous engagez là. Non, on ne sait pas. On ne sait absolument pas quand aura lieu la future PAC. Il y a différentes possibilités. La logique, c'est 3 ans, vous avez raison. La logique historique, c'est qu'on négocie tous les 7 ans, c'est-à-dire à chaque fois qu'on négocie le budget de l'Europe. En amont de ça, on a une discussion sur la principale dépense de l'Europe, qui est la PAC. Et donc, on reformate la PAC en même temps que le rythme de la négociation budgétaire européenne. Donc, la logique voudrait que ça soit 2020. Personne n'y croit. Il y a des courants au Parlement européen qui souhaiteraient que la prochaine réforme de la PAC ait lieu en 2025 aujourd'hui. Et puis il y en a d'autres, c'est plutôt... Ils voudraient en parler maintenant parce qu'ils savent que de toute façon elle n'aura pas lieu à court terme. Mais autant engager les débats à court terme pour pouvoir peser sur le cours des choses. Ce que je veux dire, c'est que moi personnellement, la prochaine réforme de la PAC, je ne la vois pas du tout en 2020. Pas du tout, parce qu'on s'arrête en même temps que le Brexit.
Ça, c'est trop tard.
C'est trop tard. On n'est pas du tout mature. Voilà. Alors donc, pour l'instant, il y a des élucubrations. Donc vous vous demandez quelles sont les élucubrations sur la PAC de demain. Alors, il y a plusieurs cas d'école. Moi, je pense que pour la France, en fait, on va avoir tellement la trouille de perdre du budget qu'on va pas du tout être offensif sur les idées nouvelles pour la PAC de demain. On va se dire... Bon, dans ce jeu de qui est compliqué, quel est le chemin qui nous permet, notamment avec l'Allemagne, parce que le duo avec l'Allemagne sera très important, comme il a toujours été sur cette question-là, quel va être le chemin qui nous garantit la possibilité de préserver les 10 milliards qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça va être là, on va être dans un débat, on ne va pas sortir rapidement du jeu et nos arguments, etc. Alors, en attendant, il faut bien amuser la galerie. Donc on va dire... tout ce qu'on ferait si la politique devenait sympathique et que du coup on aurait préservation des 50 milliards et préservation des 10 milliards. Donc on va avoir tout un jeu pendant 3 ans, on va en faire partie, l'IRA fait partie du groupe PAC, donc il n'y a pas de souci, on est déjà là-dedans. Donc on va dire, voilà, si jamais on garde les 10 milliards, c'est-à-dire en gros aucune augmentation, donc il faudra prélever à certains objectifs publics pour les réallouer à d'autres. Et là, on va, en gros, se chamailler entre nous, entre différentes écoles, différents courants de pensée, pour dire, ben voilà, s'il y a 10 milliards, il faut tout changer ou rien changer. Il va y avoir différentes écoles, donc je pense qu'il y a beaucoup qui veulent rien changer en France. Et notamment, je ne vois pas aujourd'hui, par exemple, le discours de la FNSE, parce qu'on a quand même indiqué tout à l'heure qu'il y avait une forte coparticipation, que j'avais utilisé un nouveau mot, coparticipation du syndicalisme à la politique agricole, je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'ils vont proposer de nouveau, pour être objectif. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont trop à perdre. Alors, ce qui va être beaucoup mis sur la scène, c'est tous les mécanismes assurantiels. C'est-à-dire l'idée de dire, on va donner un petit peu moins d'aide directement à chaque agriculteur, mais on va préserver des budgets, on ne sait pas combien, pour lancer des mécanismes assurantiels. Et là, Aurélie a bien dit, les mécanismes assurantiels, le problème, c'est que vous pouvez avoir de la perte dans le pipeline. C'est-à-dire que l'argent public, aujourd'hui, elle est quand même donnée, avec toute une complexité, j'accepte, mais elle est donnée aux agriculteurs, aux paysans. par le canal d'un chèque ou d'un virement sur l'exploitation. Elle est directe, elle est donnée aux agriculteurs. On peut inventer des mécanismes complexes dans lesquels, finalement, les assureurs vont bien s'occuper du dossier, les banquiers veulent bien s'occuper du dossier. Sur les 10 milliards, on fait un billet, c'est le cas de le dire, on va perdre un milliard, parce qu'il va falloir financer tous les instruments nouveaux, toute l'ingéniosité aussi de nos ingénieurs pour compenser à ça. C'est-à-dire que le paysan de base, en gros, il va perdre 1 ou 2 milliards. Ce que je veux dire, c'est que sur les mécanismes assurantiels, intellectuellement, c'est très séduisant dans un monde où on aurait beaucoup d'argent. Dans un monde dans lequel on avance, on ne va pas avoir d'argent supplémentaire, moi j'anticipe comme tel, je pense que les mécanismes assurantiels auront du mal à monter en puissance parce qu'il y aura une extraordinaire résistance des agriculteurs qui ont un bon sens paysan pour vous dire « un tiens, vaut mieux que deux tu l'auras ». Moi je préfère que tu me files les aides directes et je m'occupe de ma volatilité par la fiscalité plutôt que tu bâtisses en dehors de l'agriculture des mécanismes complexes dans lesquels une partie de l'argent public ne me reviendra pas. En fait, ce que je veux vous dire, madame, c'est qu'on va être dans un jeu très serré. On va avoir beaucoup de belles idées, on va beaucoup en parler, mais ça va être compliqué. Ce d'autant que les collectivités territoriales, qui appliquent 20% de la somme, ne n'ont pas toutes les mêmes visions que vous avez de Rhône-Alpes à l'Île-de-France en passant par la Bretagne. Les collectivités territoriales n'ont pas une vision partagée de la manière dont on doit utiliser l'argent public pour l'agriculture. Donc ça va être un débat à la fois vraiment très stimulant intellectuellement, et on va y prendre du plaisir, mais pas si simple que ça dans les faits.
Est-ce qu'on peut dire quand même, dans cette projection, je partage tout à fait ce point de vue, tout ça n'est absolument pas mûr, il faut voir que la nouvelle réforme de la PAC n'est même pas digérée. C'est-à-dire qu'on n'a même pas les instruments de versement des aides, nouveaux formats. Enfin, l'État fait des avances de trésorerie, mais n'est pas encore en mesure de verser véritablement les aides selon les nouveaux règlements. Donc, c'est vous dire à quel point on est dans des difficultés extrêmes. Cela dit, le débat va effectivement s'ouvrir. Il va y avoir des discussions. Un point important, et notamment pas pour beaucoup d'entre vous, est-ce que, de votre avis, l'équilibre des deux piliers, le maintien de l'architecture à deux piliers est quelque chose qui fait consensus ou quelque chose qui paraît fragile dans cette perspective de moyen terme?
Moi je pense qu'il va d'abord y avoir le Brexit, hein, oui. La sortie du Royaume-Uni. Or le Royaume-Uni c'était le premier défenseur, alors on peut le critiquer sur plein de choses, mais c'était le premier défenseur du second pilier. Et la sortie du Royaume-Uni. Et pareil aussi, via ces grandes ONG environnementales, je pense à BirdLife, c'est aussi des grands défenseurs quand même de l'agro-environnement, même avec un point de vue particulier. Hein. Par exemple, eux, ils donnent de l'argent pour enlever les moutons des Landes, alors que nous, au contraire, on donne de l'argent pour les maintenir. Donc c'est un point de vue agro-environnemental très particulier, hein, le conservatoire naturel, et voilà, de dualisation du territoire. Mais en même temps, ils avaient un discours très actif sur l'environnement et sur le second pilier. Le fait que le Royaume-Uni s'en aille, je pense que ça peut peser en négatif sur la question environnementale. Hein, ça c'est une première chose. Et je ne suis pas sûre que ça nous aide sur la question de régulation de marché. Parce que je pense qu'en ce moment, je le vois en tout cas sur le lait, ça c'est sûr, les premiers opposants à la régulation de marché, c'est plutôt les grands agro-exportateurs, Pays-Bas, Irlande, Allemagne, enfin en tout cas, alors l'Allemagne qui est en train de se développer, donc voilà, je ne suis pas sûre. Et par ailleurs, on a un commissaire européen, Phil Hogan, qui de mon point de vue, n'est pas du tout le commissaire d'Asiane Sulos, et ça joue le commissaire, hein. Ça joue beaucoup, parce que la Commission a quand même le monopole d'initiative, de proposition des lois, et alors elle le fait en fonction de l'équilibre qu'elle estime entre les États membres. Et par exemple, quand la France a demandé une réhausse du prix d'intervention sur le lait, parce qu'il en reste un mais très faible, et ben le commissaire l'a pas fait, Hogan, alors que certainement sur l'os l'aurait fait. Voilà, et donc ça joue énormément. Sur les assurances, juste un petit truc, je pense qu'il y a un vrai problème aussi sur les assurances vis-à-vis du prix. On peut faire des assurances sur le risque climatique, récolte, etc. Des assurances privées qui viennent intervenir quand les prix chutent, le problème c'est que vous avez un risque systémique. C'est-à-dire que contrairement à un accident de voiture qui arrive à une personne sur je ne sais pas combien, quand vous avez une chute de prix, c'est pour tous les agriculteurs. Et donc ça coûte extrêmement cher, ce qui fait que par ailleurs, on parle beaucoup des assurances aux États-Unis, il faudra que ce n'est pas un système d'assurance privée, c'est l'État. Et puis en plus, par ailleurs, ce n'est pas très développé. Donc on dit « Ah, mais les États-Unis font de l'assurance, etc. » En fait, c'est un système d'assurance, d'abord, partiel et public, quoi. Et pour finir moi, sur cette affaire de la nouvelle PAC, alors moi je vais être dans le groupe la France Stratégie, on commence la semaine prochaine hein, à réfléchir là-dessus, parce que ça va donner, mais à mon avis tout est ouvert, moi c'est ce que je pense. Alors moi après c'est mon point de vue, hein, je pense que si on veut être offensif, il faut être offensif en acceptant de relégitimer sur le plan environnemental, voire social nos aides. Et je pense que si la France ne porte pas la question de l'emploi, et notamment du versement d'une manière ou d'une autre à l'actif, ou en tout cas en favorisant le nombre d'actifs, personne ne le fera, et qu'on a vraiment intérêt à le faire. Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs sont pour des aides à l'actif, ou en tout cas en fonction du nombre d'actifs agricoles, et sont pour des aides, alors évidemment ça passera certainement pas, mais contracycliques, qui varient en fonction du prix. C'est-à-dire que quand il y a des prix très hauts, ben, on verse moins d'aide, et quand il y a des prix très bas, on verse plus d'aide, quoi. Et dernière chose, mais je sais que c'est ton dada, je pense qu'on avait une excellente idée en France il y a 15 ans, qui était le contrat territorial d'exploitation, Macron a beaucoup œuvré là-dessus, et je pense que c'était une bonne idée, c'est-à-dire restaurer l'idée d'un contrat entre les exploitations et la société sur un plan socio-économique et environnemental, et globalement reconstruire un contrat entre agriculture et société.
Vincent, ce sera le mot de la fin.
On va avoir une difficulté supplémentaire, c'est que le cours des céréales, j'avais vu le graphique tout à l'heure, le cours des céréales, les aides aux producteurs de céréales, c'est 5 milliards sur les 12. Donc, en fait, on pourrait donner à des projets écologiques, des projets nouveaux, si le prix des céréales était très élevé. À chaque fois qu'on a fait les dernières réformes, en faveur, on va dire, de l'élevage, de l'extensification, des contrats, etc., c'est dans des périodes où le prix des céréales était bien payé. 2009, avec M. Barnier, et 2012 ou 2013 avec Stéphane Le Foll. Le problème qu'on a, et qui est extrêmement sévère, ceux qui sont dans les zones intermédiaires de grande culture le savent, aujourd'hui la céréaliculture des zones en dehors du bassin parisien est très faiblement rémunératrice quand vous êtes en blé, orge, colza. Si vous faites des betteraves, vous faites du lin, etc., ça va, mais si vous êtes dans des systèmes qui étaient historiquement traditionnels, blé, orge, colza, ça ne rapporte plus du tout. Et donc la difficulté, en plus de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la PAC, la difficulté qu'on va avoir dans la prochaine réforme, c'est que même si on garde nos 10 milliards, les céréaliers vont avoir énormément d'arguments pour dire qu'il ne faudra pas changer un iota l'argent public alloué à la céréaliculture. Et cette fois-ci, ça sera la première fois en 20 ans, je pense qu'ils seront écoutés, parce qu'aujourd'hui, dans la céréaliculture, il n'y a pas d'argent. Donc ça veut dire que l'autre, le dernier point sur l'histoire de la PAC, je suis complètement d'accord avec Aurélie sur l'influence des commissaires. En fait, quand on relit la PAC, moi j'ai été versé à 5 commissaires, Raymond Chary, 92-99, Franz Fischler, autrichien, qui croyait énormément au deuxième pilier de la PAC, qui l'a défendu bec et ongles à Cork en 99, suivi de Marianne Fischer-Boel, qui était une Danoise, qui avait une vision totalement libérale, hyper open sur les marchés, qui ne comprenait rien au deuxième pilier. Puis après, Dacian Solos, le plus français compatible de la bande depuis 25 ans, qui contrôlait tout à notre vision agricolo-agricole et territoriale à la française,
et qui a fait ses études,
et voilà, qui nous a bien défendus. Et là, on est un peu paumé, parce qu'on se retrouve avec Phil Hogan, qui est un homme issu politique irlandais, issu de l'environnement, mais qui n'a absolument pas trop de velléité environnementale sur le plan agricole, et qui est très orienté marchés internationaux, puisque l'Irlande aujourd'hui se développe énormément sur les marchés internationaux. C'est bien que là, on est un peu perdu, parce qu'on a l'impression qu'il va tenir le manche finalement jusqu'en 2020, et qu'on va devoir négocier la prochaine PAC avec quelqu'un qui ne défendra pas, ça je suis d'accord, obligatoirement la structuration en deux piliers. Et qu'il est très capable de prendre un troisième pilier gestion des risques, si ça sert, ben, je dirais, ses équilibres politiques du moment. Donc on est, pour une fois, dans un débat compliqué. Et le dernier point sur ça, c'est que le Parlement européen, et nos représentants au Parlement européen, dans les années 2000-2010, pour moi, ils étaient très bons. Et il y avait à l'intérieur de ça, on l'a beaucoup encensé, mais il n'y a pas que lui, Stéphane Le Foll, Michel Dantin, il y a des gens qui défendent. Eh bien, quand vous allez au Parlement européen aujourd'hui, et que vous voyez nos députés du Front National qui parlent de l'avenir de la politique agricole commune, là je m'engage personnellement, mais vous vous dites que ça fait rire beaucoup les Allemands. C'est-à-dire que notre position politique au Parlement européen, dans la Commission agriculture, elle n'est pas aussi forte qu'elle était il y a 10 ans. Donc franchement, on ne va pas la ramener. Je pense que la prochaine PAC, le ministre qui est engagé, il va avoir beaucoup de questions de stratégiques à mettre sur la table avant de faire son choix. Ça va être beaucoup moins simple que dans les 10 dernières années. C'est la raison pour laquelle je pense que certes, il faut avoir un débat d'idées, mais il faut quand même être très conscient des limites et de la portée de ce débat d'idées dans sa manifestation concrète.
Bien, bah écoutez, c'est une bonne conclusion pour ce débat.